Bonjour à tous. Nous allons, pour cette dernière séance, parler de la théorie des sursauts gamma, que nous avons l'habitude maintenant d'appeler GRB, hein, Gamma Reburst. Donc, l'exposé voudra donner un petit peu un aspect de la diversité des modèles. Donc, d'abord, on va commencer par les contraintes des observations. Donc, on a un petit rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière. Et puis, on verra qu'il y a deux catégories de sursauts. Donc, les longs, où la théorie a un a priori pour lui donner un aspect de supernova, d'effondrement d'une étoile très massive. Et l'autre, c'est les courts, qui sont sans doute faits d'une fusion de deux objets très compacts. On va voir que lorsque le sursaut gamma rencontre l'environnement, le milieu ambiant, il va y avoir des chocs qui vont créer une émission rémanente qu'on appelle afterglow. C'est avec ces afterglows qu'on va pouvoir vraiment connaître la nature de la source, parce que le début est très très rapide, quelques secondes. L'afterglow peut être des jours, des mois et même des années en radio. On va essayer de décrire un petit peu les mécanismes de rayonnement. On verra les simulations numériques, ce que ça ne peut nous apporter. Donc, les contraintes des observations. Donc, rapidement, on a vu avec Batsé que ces sources de ces gamma ray bursts sont isotropes, donc fatalement extragalactiques, cosmologique, d'origine cosmologique. D'ailleurs, le nombre supérieur à un certain flux décroît comme on l'attend en F-3,5 de fait d'une source cosmologique. Puis, les luminosités, on a vu, sont très très fortes. Si on suppose qu'il y a une isotropie de la source, mais évidemment, ce n'est pas vrai. On a vu que dans les courbes de lumière, il y avait une cassure du jet qui montrait que sans doute il y avait un jet, enfin une cassure de la courbe de lumière qui montre qu'il y a un jet à un certain temps. Et donc ça permet de réduire, puisque l'énergie ne vient que dans certains petits volumes, donc l'énergie est moindre, un facteur 100, donc peut-être 10 puissance 51, 52, et ça correspond à l'énergie donnée par une supernovae les plus massives, donc les plus fortes, les hypernovae. Donc là, on retombe sur d'ordre de grandeur d'énergie raisonnable. Et d'après la cassure, là, on a vu que l'ouverture du jet était de quelques degrés. Alors, on va voir que le jet est sans doute ultra-relativiste. C'est dans les modèles, mais on va voir que c'est bien confirmé. Il y a, par exemple, une source qui a une vitesse superluminique, et ça n'arrive que lorsqu'un jet vient vers vous avec une vitesse ultra-relativiste. On sait que gamma ne peut pas être trop petit non plus, car l'objet est tellement compact que très près de l'objet compact, il serait optiquement épais envers la création de paires, et on ne pourrait pas sortir un G gamma comme on le voit. Donc, on a ces contraintes-là. Alors, la vitesse superluminique, vous voyez, il y a un objet, ce GRB observé en 2003. Donc, vous savez que 0,3, c'est l'année, 0,3, c'est le mois et 29 le jour. Par un VLBI, donc en radio à interférométrie de longue base, à ce redshift-là, et on a vu qu'il avait une taille de 0,07 milliards de secondes, donc avec cette interférométrie centimétrique qui prend comme ligne de base toute la Terre, on a pu aller jusque-là, donc ça fait 0,2 parsec, et 25 jours après le début, on a 0,17. Donc vous voyez la distance parcourue en si peu de temps, ça veut dire qu'il y a une vitesse apparente qui est de 3 à 5 fois la vitesse de la lumière. Ça, on l'a déjà rencontré dans les noyaux actifs, où il y a un jet qui vient vers vous, avec un angle très petit. Alors pourquoi il y a cette illusion d'optique, on a l'impression que ça va plus vite que la vitesse de la lumière? Simplement parce que le messager qui va apporter le message à l'œil ici, il va à la même vitesse que la source. Donc à ce moment-là, il y a une compétition. Ici, le point B par rapport à sa position ici, il est beaucoup plus proche de l'observateur. En fait, on a l'impression que c'est presque la même chose puisqu'on est très très loin. Mais quand même, il faut un temps pour aller de A à B qui fait X sur C. Et c'est le même temps que la lumière. Donc ce point-là apparaît tellement proche qu'on a l'impression que ça va plus vite que la vitesse de la lumière. C'est juste une illusion. Donc par ce biais-là, on sait que le G est vraiment ultra-relativiste. Il y a des facteurs de Lorentz très grands, de l'ordre de 100 ou plus. Donc, vous voyez ici la taille en fonction du temps. Et puis, il y a ce problème de compacité qui nous dit que sans doute le gamma doit être très grand, même plus grand que 100. On a vu que dans les observations, c'était en effet 600, 700. Pourquoi ? Parce qu'en effet, quand on est très proche, on pourrait avoir une épaisseur optique très, très forte des gamma entre eux qui formeraient des paires électrons, positrons. Or, on les voit sortir comme si c'était optiquement épais. Donc il faut que le gamma soit très fort, supérieur à 100. Il peut aller même jusqu'à 10 000, on va voir dans les modèles. Alors, on a vu aussi que le G avait une certaine cassure, et on avait vu que cela survenait lorsque le petit angle qui est formé par une particule qui émet vers vous à une vitesse relativiste, il est de l'ordre de 1 sur gamma, gamma étant le facteur de Lorentz. Comme gamma est très grand, 600, etc., on a un angle qui fait 0,1 degré. Le G, lui, fait que 10 degrés. Donc, lorsque le G se ralentit, le gamma devient beaucoup plus petit. Et à ce moment-là, l'émission de la particule s'élargit. Et on voit que le G est obligé de s'élargir, donc l'énergie est moindre. Elle va être distribuée dans beaucoup plus de directions et elle va tomber. Donc la courbe d'une lumière va faire ce genre de choses. Et l'instant à laquelle cette coupure de G arrive va nous donner l'angle du G. Donc c'est ça qui nous donne de l'ordre de 10 degrés. Et ce qu'on voit bien aussi sur cette figure, c'est que cela dépend. Le fait que l'on voit le gamma ray burst dépend de la position de l'observateur. Si on a un observateur juste dans l'axe, alors on verra le gamma ray burst, puis l'afterglow, qui est celui-là. Mais si on est en B, on ne verra pas finalement ce qui est en rouge ici, le gamma ray burst vrai. On verra peut-être que l'afterglow. Et puis quand on est en C, là, on ne verra même pas le début de l'afterglow, on verra que la fin. Donc ça, on devrait le voir encore plus souvent, puisque l'angle est plus grand. On doit voir ce genre de choses. C'est plus difficile à voir puisqu'on n'a pas l'alerte qui est donnée par le gamma ray burst très fort. C'est beaucoup moins fort, donc on le voit moins, mais on devrait en voir beaucoup. Alors voici comment on pense que se déroule le G ici. Ici, on a sans doute un choc très important, interne. On appelle ça interne parce que c'est toute la partie qui est très rapide, quelques secondes, le sursaut gamma en question ici, avec peut-être des coquilles plus rapides au début qui sont ralenties, etc. Et puis bien plus loin, ce qu'on appelle choc externe, qui représente ce qu'on appelle l'afterglow, mais alors c'est des jours après, et donc c'est bien plus loin, avec un choc qui va vers l'avant et qui choque tout le milieu ambiant, qui est peut-être les éjectas précédents de l'étoile, si c'est une supernovae, et donc toute la matière choquée est ici, très chaude, et puis fatalement un choc inverse qui va aussi choquer tout ce qui est dans le G, qui va peut-être avoir un incident sur la réénergisation de l'afterglow. Donc on a vu qu'il y avait une bimodalité très marquée des observations. On a en fonction de la durée le nombre de gamma ray bursts observés et on voit qu'il y a une séparation très nette à 2 secondes. Donc on va appeler les GRB courts, tous ceux qui sont inférieurs à 2 secondes, les longs, tous ceux qui sont supérieurs. Alors les deux, on pense que ce sont des événements cataclysmiques, c'est-à-dire qui détruisent l'objet qui était la source, c'est-à-dire ici une étoile qui se détruit en explosion de supernova, qui collapse en quelque sorte, ou bien la fusion d'objets, après il n'y a plus les deux objets, donc c'est vraiment quelque chose qui détruit complètement, qui ne va pas se répéter en quelque sorte. Donc l'objet central quand même peut être une magnétar ou un trou noir qui va redonner de l'énergie peu à peu par le champ magnétique, etc. Mais il n'y aura jamais le burst qui n'arrive qu'une fois. Alors, ces GRB longs, on pense donc l'effondrement d'une supernovae. Et de quelle supernovae il s'agit? Il s'agit de supernovae très très massives, 30, 50 masses solaires, qui sont en général des Wolf-Rayettes. Ça, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. Vous avez une très belle image ici, qui est une de ces étoiles Wolf-Rayettes. En fin de vie, elles passent dans cette branche de Wolf-Rayettes où elles éjectent. Ici, c'est une vraie image du HST qui représente le rayonnement H-alpha, une raie de Balmer de l'hydrogène. C'est de l'hydrogène ionisé. Donc l'étoile, en fin de vie, pendant 100 000 jusqu'à 900 000 ans, elle va éjecter son hydrogène, son enveloppe d'hydrogène, et vous voyez l'hydrogène ionisé ici. Elle va aussi éjecter l'enveloppe d'hélium. Et on va appeler cette supernova de type 1C, parce qu'on ne verra plus dans la supernova lorsqu'elle explosera. Donc cette étoile va peut-être exploser dans 100 000 ans ou 200 000 ans, on ne sait pas. Mais ça reste à peu près moins d'un million d'années dans cette phase-là. Et lorsqu'elle aura explosé, on ne verra pas les raies d'hydrogène et d'hélium, puisque toutes les enveloppes ont été expulsées. Ce genre d'étoiles, évidemment, vous les voyez dans les zones de formation d'étoiles. Donc, c'est ce qu'on a observé. Les galaxies hautes de CGRB sont des galaxies bleues qui forment beaucoup d'étoiles. Pourquoi ? Parce que la durée de vie de ces étoiles massives, c'est 10 millions d'années, pas plus. Donc, si vous voyez une supernovae comme cela, avec un gamma ray burst, il faut que la zone de formation d'étoiles soit très proche. En général, une faible métallicité, parce que les métaux, comme carbone, azote, oxygène, refroidissent le gaz et permettent de le fragmenter en petites étoiles. Si vous voulez avoir des grosses étoiles, il faut avoir une faible métallicité. Et c'est ainsi que ces objets très puissants, on peut les détecter jusqu'à de grands redshifts. Et puis l'autre de la bimodalité des GRB, les cours, on pense donc à des fusions. Alors ça, c'est une photo d'artiste, bien entendu, là, il n'y a plus de photos réelles. On imagine deux étoiles à neutrons. On ne sait pas vraiment de... Enfin, elles sont faites de neutrons, au centre peut-être des quarks étranges ou je ne sais quoi. Mais là, c'est une photo d'artiste qui a essayé de représenter. On ne sait pas vraiment l'équation d'état de cette étoile à neutrons. Et justement, les prévisions qu'on va en faire vont dépendre de cette équation d'état. Donc, on va peut-être apprendre quelque chose sur cette équation d'état. Donc, ces objets sont des rémanents, des restes de supernovae de très très longtemps, ça peut être un milliard d'années, 2 milliards d'années, donc ce sont dans toutes les galaxies hautes, des galaxies elliptiques qui ne forment plus d'étoiles, ce sont des objets très très anciens, très vieux, donc on n'a pas besoin d'être tout près d'une formation d'étoiles, d'où les galaxies hautes. Alors en gros, que va-t-il se passer lorsque vous avez la fusion de deux étoiles à neutrons? Quand même, dans l'interaction de marée entre ces deux étoiles, pendant qu'elles spirale l'une vers l'autre, vous allez avoir des queues de marée et donc de la matière sous les formes de neutrons probablement, mais aussi de baryons, qui vont former un disaccrétion. Si le plan de l'orbite est celui-ci, vous allez avoir un disaccrétion. Peut-être que les deux étoiles à neutrons vont former un trou noir. Donc vous avez un disaccrétion, un trou noir, et on sait que lorsque la matière s'accrète, elle va être très ionisée, bien sûr, et elle va piéger le champ magnétique. Le champ magnétique va être très très fort au centre et c'est ce phénomène magnétique qui va éjecter le jet. On va essayer d'en détailler un peu plus. Donc, 10 accrétions et trous noirs, c'est un peu ce qu'on a vu dans les noyaux actifs, mais cette fois-ci à beaucoup plus petite échelle. Et lorsque on compare avec les GRB longs qui sont des supernovas qui explosent, vous voyez que là, vous avez une géométrie un peu différente au départ puisque vous avez la supernovae qui a explosé de façon un peu plus isotrope, avec des éjectas ici, et puis au centre, le cœur s'effondre en trou noir, et vous avez un jet de la même façon, un disque d'accrétion, un jet, et parfois on a justement ce choc qui arrive lorsque le jet rencontre les éjectas de la supernovae. Évidemment, ces éjectas vont à une vitesse beaucoup moindre, très sub-relativiste, alors qu'ici on est à la vitesse C, donc on va aller beaucoup plus vite et rencontrer ce jet à un moment donné. Donc on va sortir de la nébuleuse. Alors, il y a quand même quelques petites exceptions entre court et long. On en avait parlé la semaine dernière de l'observation de Ahumada assez récente d'un GRB qui apparaît court, un GRB observé en 2020. Il apparaît court, il est ici dans ce diagramme temps de la durée du gamma ray burst, ici. Vous voyez ici, on a les roses qui sont ceux qui ont une énergie de pic plus forte, qui globalement ont moins d'énergie, mais qui ont une énergie pique plus forte ici, et les longs qui sont en bleu. Ce que vous voyez aussi, c'est des petits carrés et des petits ronds jaunes, ce qui veut dire que dans les petits ronds, on a identifié, pas dans tous, hein, mais dans certains, on a identifié des supernovae qui ont éclaté en même temps que le gamma ray burst, donc c'est vraiment identifié. Les carrés, c'est seulement lorsqu'on a une bosse dans l'afterglow, on n'a pas vraiment vu tout de suite la supernovae, mais on la voit après coup. Le gamma ray burst a une décroissance comme cela, et parfois à 20 ou 30 jours on voit la bosse de la supernovae qui a une courbe de lumière qui dure plutôt de l'ordre d'un mois. Donc ces bosses là sont les carrés, donc tout ça c'est en fait des supernovae, et on va voir que celle-ci qui a une seconde, donc c'est un cours normalement, eh bien elle a été identifiée par une supernovae. Ici vous avez l'afterglow, ici en rayons X, ici en visible, que ce soit le visible vers le rouge, etc., et en radio qui arrive plus tard. Et puis, il y a une bosse qui a été vue, qui représente la bosse de supernovae, et un spectre a été fait de cette supernovae, on a vraiment vu que c'était le cas. Donc, on a un gamma ray burst court, c'est une exception, qui est ici. Alors ici, c'est le diagramme dont on a aussi parlé, le diagramme d'Amati, qui relie l'énergie du beurre supposé isotrope à l'énergie du pic. On voit que les courts, là, qui sont en rose, sont bien au-dessus, et les longs. Et celui-ci, qui fait une seconde, eh bien, il est quand même dans les longs. Donc il appartient pour certaines propriétés à des courts et certaines propriétés à des longs, mais il viendrait d'une supernovae, donc ce serait plutôt dans la classe des longs. Donc, en fait, quand on regarde le nombre de ces gamma ray bursts longs qui viennent de supernovae, il y a beaucoup plus de supernovae que de gamma ray bursts. Alors, évidemment, vous allez me dire, il s'agit du beaming, on ne voit pas tous parce qu'il faut que le beam vienne vers vous. Mais ce n'est pas tout, même en prenant en compte ce facteur 100 du beaming, on a beaucoup plus de supernovae que de gamma ray bursts. Donc, il faut constater que tous ne font pas des jets qui sortent de la nébuleuse. Alors ici, c'est un petit cartoon qui vous montre un peu le problème. Si le jet n'est pas assez puissant, il va être avorté en quelque sorte, il ne va même pas sortir de la nébuleuse, il n'y aura pas de choc d'afterglow ni quoi que ce soit. Alors pourquoi il y en a qui sont plus ou moins forts? Eh bien, certainement la masse. Si la masse de l'étoile qui a explosé en supernovae est plus massive, on aura plus d'énergie. S'il y a une rotation, parce que la rotation, on va voir faire le champ magnétique par effet dynamo, on va pouvoir avoir un champ magnétique qui va expulser le jet, ou la métallicité n'était pas assez faible, etc. Alors, des simulations ont été faites par Zhang, Wusley et Guerre, justement, pour ce jet qui sort de l'étoile, en quelque sorte, de la nébuleuse de l'étoile, de Wolf-Rayet, par exemple, qu'on a reproduit ici. Et vous avez ce facteur de Lorentz qui est très fort au centre. Et on voit qu'il y a des instabilités un petit peu de Rayleigh-Taylor ici. Et on a des facteurs de Lorentz un petit peu moins grands au bord. Ça a été proposé pour expliquer les flares, en fait, les sursauts X un petit peu moins énergiques que l'on voit en général se superposer aux afterglows. Ça pourrait être ce genre de choses. Mais bon, c'est pas sûr, évidemment. Dans ce genre de simulation, donc toujours Zhang Wusley, on voit un petit peu les étapes de plusieurs modèles. Ici, vous voyez 5 secondes. Vous voyez que c'est très court, hein, 5, 12, 20, 70. Ici, on a le rayon de la Wolf-Rayet qui est de l'ordre ici de 0,8. Donc, vous avez l'étoile et c'est à ce moment-là que le jet sort de cette nébuleuse et rencontre les éjectas ici. Et vous avez peut-être ce flare X qu'on voit ici. Alors, ce que vous avez dans les diagrammes, c'est dans la partie haute, le facteur de Lorentz gamma, et dans la partie basse, la densité à chaque fois. Donc ça nous permet de voir deux aspects de la même simulation, et on voit qu'à 70 secondes, on a un afterglow qui est en train de se développer. Donc l'unité ici, c'est un 10 puissance 6 km, si vous voulez. Alors il y a peut-être une troisième, on en a parlé de deux sources, certains disent qu'il y a une troisième catégorie de GRB, ce sont les soft gamma ray repeaters. Certains ne le classent pas vraiment dans un GRB parce que d'abord, ce n'est pas cataclysmique. C'est quand même un transitoire gamma et qui peut ressembler, lorsqu'on regarde une alerte comme celle-ci, ils sont appelés GRB et ça peut ressembler à un GRB court, hein, puisque c'est de l'ordre inférieur à 0,1 seconde. Ils sont quand même plus faibles et on a vu qu'il y en avait pas mal dans la Voie lactée, donc ils sont très nombreux, beaucoup moins énergiques. Ce sont des magnétars, des sursauts de magnétars, on appelle ça aussi MGF, Magnetar Giant Flare. Ils sont de rayonnement assez doux, mou, soft, et ils se répètent. Ça veut dire qu'il s'agit d'une étoile à neutrons qui est déjà là depuis un certain temps, qui a un champ magnétique très fort et qui redonne un peu d'énergie en se ralentissant. Et ils se répètent un certain nombre de temps. Donc on a identifié d'ailleurs, on l'avait vu à l'occasion des sursauts radio rapides, l'FRB. Il y en avait un qui a été identifié avec une supernovae qui avait éclaté il y a 20 000 ans à peu près. Donc ce n'est pas aujourd'hui, mais on voit que c'est quelque chose qui dure, qui peut durer 100 000 ans, en donnant un petit peu d'énergie. Donc il y a énormément de ces objets, mais évidemment on en voit moins puisqu'ils sont plus faibles et on peut les voir dans un plus petit volume. C'est exactement comme les GRB longs qui sont beaucoup plus énergiques, ils sont moins fréquents, mais on les voit beaucoup plus loin, jusqu'à Z égale 9, donc plus grand volume, et ils sont plus nombreux que les cours qui, finalement, en réalité, sont plus nombreux, mais on les voit avec un petit redshift, un petit volume, et donc ils sont moins nombreux. Donc ici, on voit qu'ils ressortent ici, ils sont très abondants. Donc la statistique de ces cours GRB, short GRB ici, on les voit en énergie, en temps de, après le pic, etc. Et on voit que les S, les soft repeaters, les magnétars, ce sont des, dans le fond, c'est-à-dire très, très courts, très faibles, etc. On les voit, c'est à peu près 2% de ces gerbés courts. Donc ces objets, quand même, difficiles à détecter au-delà de, des galaxies proches, M81 par exemple, M83, 5 mégaparsecs. Alors maintenant, on peut regarder quel est le mécanisme pour extraire l'énergie de ces gamma ray bursts ici. Ce qu'on voit, c'est qu'à la fin, quel que soit d'ailleurs le mécanisme court ou long, on va se retrouver avec un objet très compact, certainement un trou noir, peut-être parfois une étoile à neutrons, mais un trou noir, avec un disque d'accrétion. Donc ici, on est dans le perpendiculaire, ici dans le disque, on a le jet qui va partir. Il va y avoir aussi, il ne faut pas l'oublier, on n'a pas vraiment beaucoup détecté, mais on le sait qu'il va y en avoir, des neutrinos, neutrinos entre neutrinos, qui vont dégager beaucoup d'énergie dans l'événement, et ils vont s'annihiler en électrons positrons. Ils ont énormément d'énergie, donc beaucoup plus que l'énergie de la paire, qui va pouvoir créer ce jet ici, et qui va être collimaté, par exemple, par des baryons qui sont... entraînés par ces neutrinos ici. Donc on peut avoir une collimation, ça c'est une proposition. Une autre proposition était de dire que l'énergie magnétique va dominer l'énergie cinétique des particules, et on va avoir, puisque là c'est la matière ionisée qui va piéger le champ magnétique, lorsque tout va s'accréter, on va avoir énormément de champ magnétique qui va dominer l'énergie et propager un jet, ce qui a été proposé par Blandford en 2002 pour les GRB, qu'il avait déjà proposé pour les noyaux actifs. Donc une énergie magnétique et électromagnétique dominante, avec un champ qui, au départ, est selon le pôle, poloïdal comme ceci, qui va ensuite devenir toroïdal. Si on regarde par-dessus, on a un tore et puis un champ électrique qui vient vers vous. Et puis un choc avec une surface de discontinuité avec pas mal d'instabilité, et puis des rayons gamma qui sont pris par ce choc-là. Il est prévu dans ce modèle qui va être simulé, hein, mais qui est déjà analytique, un facteur de Lorentz qui est très grand, 30 000 ici, et qui va ensuite tomber en 100 secondes à un facteur 100. Et comme le gamma est beaucoup plus grand au centre, on a un afterglow qui a une forme un peu elliptique. Il y a même des instabilités ici qui pourraient être une des sources de ces fameux sursauts X qui sont moins énergiques que le sursaut gamma. Alors ce genre de mécanisme a été simulé par Rosvog pour voir un peu quels étaient les paramètres qui permettaient de se faire sortir un gamma ray burst ici. Alors s'il n'y a pas de rotation et s'il n'y a pas de moment orbital, par exemple deux objets compacts qui reviennent sans spin et sans moment angulaire, à ce moment-là, vous avez un log un facteur de Lorentz gamma qui arrive juste à peine à 10, vous voyez, log de 10 égale 1 ici. On a quelque chose qui est très très petit et on n'arrive pas à extraire un gamma ray burst vraiment. Par contre, si on a un grand spin et un moment angulaire et un champ B qui va être amené vers le centre, on peut avoir cet aspect-là avec plus que 10 000, donc ce qu'avait imaginé Blandford peut se produire dans la simulation avec quelque chose de très collimaté. Donc ces afterglows sont supposés être dus au choc lorsque le jet ultra-relativiste arrive à rencontrer le milieu ambiant. Donc ici vous avez entre les deux, le jet qui arrive et le milieu ambiant, une surface de discontinuité qui est représentée par le noir. Et puis, le choc se propage et va chauffer toute cette matière ambiante qui va être passée par le choc, en bleu. Et puis, vous avez un choc qui s'en va vers l'arrière et qui chauffe cette partie des éjecta et du jet lui-même qui va se propager vers l'arrière. Donc, vous avez cet aspect qui, à chaque fois, est reparti. Ici, cette image est pour vous montrer un petit peu la taille très différente entre les chocs qui sont internes et qui vous donnent les rayons gamma, le sursaut, vous voyez 1,6 AU. Et puis ensuite, lorsque le choc arrive vers le milieu ambiant, donne des rayons X, de l'optique, de la radio en plusieurs jours, vous avez 1000 fois plus loin. Donc Donc on a vraiment des échelles très différentes, bien qu'on les représente un petit peu à la même échelle, mais c'est vraiment très très différent entre ces deux, et on le voit dans le temps. Et dans le... Alors certains ont même supposé que vous avez par exemple des chocs internes, l'afterglow est superposé, ça peut être plus complexe que les deux internes et externes, vous pouvez avoir un choc interne tardif, comme a imaginé Zigao Dai par exemple, qui serait plus faible et qui pourrait former ces fameux flares ou sursauts que l'on voit ici, se superposer à un afterglow régulier. Vous avez parfois ces flares qui pourraient être dus à des chocs internes tardifs. Vous voyez qu'il y a plusieurs propositions pour expliquer ces sursauts X. On ne sait pas vraiment lesquels sont dominants. Ce qu'on sait à peu près quand même, c'est la distribution de l'énergie dans tout le G plus afterglow. Vous voyez que l'essentiel de l'énergie vient dans les rayons gamma dans le sursaut. C'est ce qui est le plus fort. Et puis, à moindre énergie, on a 7%. En optique, il n'y en a presque rien. Radio, certainement pas beaucoup. Et là, vous avez une grande contribution, encore plus forte que les rayons gamma ordinaires. Vous avez jusqu'au TEV, ça peut aller jusqu'à 10%. Et puis, peut-être, le rayonnement gravitationnel, s'il s'agit d'un burst avec la fusion de deux objets compacts, évidemment. Et puis, dans l'afterglow, ce que vous avez, c'est... rayons X et gamma qui quand même dominent. L'optique est quand même pas très très forte, mais l'avantage c'est que elle est très facile à détecter et elle vous donne énormément de renseignements dans toutes les couleurs. On a des spectres de baryons, on va voir dans les kilonovas, donc même si c'est que 2%, c'est énormément d'informations qui est donnée dans ce secteur. Et de même la radio, c'est très très peu d'énergie bien sûr, mais ça vous donne pas mal d'informations. On avait vu que le VLBI par exemple, que ça donnait énormément d'informations. Alors là, vous avez un petit peu les deux aspects du X-ray flash dont on vient de parler, avec le gamma ray burst. Vous voyez que l'énergie totale est bien moindre, et aussi le rayonnement est beaucoup plus mou que le gamma ray burst dur. Alors, j'ai parlé un petit peu de fusion d'étoiles à neutrons pour donner les gamma ray bursts courts, et comme vous le savez, il y en a une qui a eu lieu en 2017, qui a été observée par les ondes gravitationnelles, mais qui avait été prédite bien avant. D'ailleurs, c'est Metzger qui a inventé le mot kilonova en 2010, mais ce dessin vient d'un papier de Metzger et Berger en 2012, alors que le premier événement de ce type avec ondes gravitationnelles a été observé en 2017. Donc, vous voyez que la théorie quand même précède de beaucoup l'observation. Ce qui a été prévu, donc, vous avez un trou noir qui vient de la fusion de deux étoiles à neutrons avec 10 accrétions, comme on vient de parler. Vous avez le gamma ray burst dans le G, vous avez la cassure du G ici, avec un facteur de Lorentz très grand ici. Dans celui-là dont on va parler pas mal, on est un petit peu, l'observateur est un peu hors axe. Et puis, ce qu'il faut bien penser, c'est qu'il y a aussi une émission de neutrons, de baryons donc, de neutrons qui est assez isotrope. Mais évidemment, elle est très peu relativiste, mettons 0,1 ou 0,3C, alors que l'autre, ça va à la vitesse de la lumière. Ici, c'est moins énergétique en énergie cinétique, mais on va voir que ça va nous donner énormément de renseignements. Et c'est cela qu'on va appeler kilonova, kilo parce que c'est 1000 fois plus qu'une nova, c'est simplement l'énergie. C'est quand même bien inférieur à une supernova. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que ces éjectas vont bombarder de neutrons le milieu ambiant et vont produire des éléments qu'on ne peut pas faire autrement. Alors pourquoi on ne peut pas les faire autrement ? C'est que dans toutes les tables des éléments, vous savez qu'on gagne de l'énergie si on fusionne l'hydrogène en hélium, ainsi de suite, jusqu'au fer. On a un pic du fer, un pic d'abondance du fer. Et au-delà du fer, il faut fournir beaucoup d'énergie pour remonter en la pente pour avoir d'autres éléments. Et donc, ce sont les neutrons rapides qui bombardent avec énormément d'énergie et qui vont passer... Alors ici, vous avez une courbe Z, c'est le nombre de protons, c'est la charge du noyau positive, et le nombre de neutrons. Donc, lorsqu'on bombarde en neutrons, vous allez vous retrouver à des éléments qui sont ici. Et puis, vous avez une tracée, une île de stabilité ici. Donc, lorsque l'élément est instable, il va y avoir une radioactivité bêta, c'est-à-dire un neutron qui devient électron plus proton. Donc le proton, on va monter en Z, et puis on va avoir encore une ligne de neutrons, et ainsi de suite, de manière à suivre la ligne de stabilité des noyaux. Et on va pouvoir, donc, avec cette kilonova et ce bombardement de neutrons, obtenir énormément de noyaux. Alors ceci était prédit justement par les modèles, par exemple Metzger et d'autres. Ici, vous avez les éléments légers qui sont formés dans le Big Bang, vous avez certains qui sont formés dans les supernovas, dans les naines blanches, etc. Et puis à partir d'ici, vous voyez que tous ces éléments-là sont dus à ce qu'on appelle le processus rapide de neutrons et qui viennent des fusions d'étoiles à neutrons. Vous avez ici le xénon, vous avez le cerium, toutes les lanthanides, le lanthanium est ici, vous avez le platine, l'or et tout ce qu'on a sur Terre qui viennent de fusions d'étoiles à neutrons. Donc c'est quand même assez fascinant de voir que ces objets sont quand même très importants pour notre table des éléments. Alors, vous voyez, en couleur, c'est encore plus visible. Ici, on voit les éléments légers H, HE et un peu de lithium qui sont formés dans le Big Bang. Ici, on voit en rose, il n'y a que le barium, le bor, là, qui sont formés de façon très particulière par spallation, c'est-à-dire bombardement de rayons cosmiques. Et puis, on a des vents lorsque une étoile comme le Soleil va exploser, va remettre dans le milieu interstellaire une enveloppe et qui va enrichir de ces éléments verts. Il va y avoir une explosion des étoiles massives en jaune. Ça, c'est les supernovas de type 2, comme le crabe, qui vont donner les éléments jaunes. Et puis, les supernovas de type 1A, qui sont des naines blanches, ces éléments-là. Et puis, vous voyez, tout ce qui est en violet, et même, je passe à l'autre, parce que vous avez des éléments qui sont instables et qui sont formés uniquement dans les accélérateurs de particules, les gris, ici. Mais tous ceux qui sont stables en violet, ce sont ceux qui sont formés par les bombardements de neutrons dans les fusions étoiles neutrons. Donc, vous voyez l'importance de ce processus pour les éléments. Donc, ça s'est reproduit ici, dans cette île de stabilité. Ici, vous voyez un peu le Big Bang, les supernovae de type 1, de type 2, et puis les étoiles à neutrons qui sont responsables de tous ces éléments-là qui sont encore stables. Alors ça, on va quand même s'en servir, car dans la kilonova qui a été observée en 2017, par exemple Kazan et al. Et d'autres, on fait une simulation pour voir si on pouvait interpréter le spectre. Ici, c'est en fonction de la longueur d'onde. Vous avez un spectre interprété avec les raies, par exemple là, l'abondance solaire. Et puis si vous avez du néodyme, qui est un des lanthanides, avec Z60, le lanthanium, c'est lanthane, c'est 57, et puis 58, le cérium, qui donne des raies particulières. Donc si on les observe, ça veut dire que vraiment on les forme dans la kilonova. Ça va nous permettre de savoir, par exemple, il y a deux hypothèses. Vous avez tous ceux qui sont les éléments les plus légers dont le nombre atomique est inférieur à 140 sont formés dans ce qui est bleu ici, et puis les plus lourds ici sont en rouge. Donc il y a plusieurs modèles et vous comprenez qu'on peut faire varier ce modèle de manière à comparer aux observations et voir ce qui se passe vraiment dans la supernovae, dans l'afterglow. Alors, dans l'afterglow observé en 2017, on avait en cette longueur d'onde, on a en rouge, vous voyez, tous ces éléments qui sont dus à des éléments très lourds. Et on voit qu'en effet, en fonction du temps, cette fois, on observe toutes ces couleurs rouges là, qui sont dues aux éléments lourds un peu plus tard. Et on les a observées avec certaines signatures très particulières. Donc ça permet de faire un petit croisement entre théorie, prévision théorique et observation. Alors ici, on ne sait pas encore si la fusion d'étoiles à neutrons va donner un trou noir ou une étoile à neutrons genre magnétar. Pourquoi ? Parce que même si les deux étoiles à neutrons ont en somme quelque chose qui fait plus que la limite 3 masses solaires pour former un trou noir, il est possible qu'il tourne très très vite et que la force centrifuge empêche l'effondrement en trou noir. On en avait déjà parlé avec un blitzar, un magnétar qui est très rapide et qui doit se ralentir avant de s'effondrer en trou noir. Donc ici, plusieurs scénarios ont été simulé ici. Bon, ça dépend, et c'est là que ça dépend de l'équation d'état de l'étoile à neutrons par Ruiz et Shapiro. Et ils ont essayé de montrer que lorsque l'effondrement était trop rapide, il y avait un trou noir, on n'arrivait pas à éjecter un gamma ray burst, donc un G et des rayons gamma, alors que si l'effondrement était retardé, il y avait pendant quelques secondes, hein, millisecondes ou secondes, beaucoup de matière qui va arriver au centre, piéger le champ magnétique, faire une dynamo, faire un champ magnétique tel que le G va partir dans la milliseconde et on aura un gamma rayburst. Donc, ça permet donc de comprendre un petit peu les paramètres qui sont pertinents pour cet événement. Alors, cet événement a été très intéressant. Il était assez proche. Alors, ces fusions d'étoiles à neutrons sont plus rares que les fusions de trous noirs. Les fusions de trous noirs sont beaucoup plus massifs, beaucoup plus énergiques en ondes gravitationnelles. On en a découvert presque 50 ou 100 aujourd'hui. Mais les fusions d'étoiles à neutrons, elles sont plus intéressantes au point de vue baryon et spectre optique, mais elles sont beaucoup moins énergiques et donc on les voit moins loin. Donc ici, vous voyez celui-là, il était très proche. C'était une galaxie NGC 4993 qu'on a pu imager. Imagé avec MUSE rayon en orange, vous avez le gaz ionisé. C'est une galaxie un peu spirale de type plutôt early avec un gros bulbe et on voit l'événement ici qui est dans la périphérie en fait, qui n'est pas dans le noyau et on voit l'afterglow qui était très visible en rouge avec le HST, avec tous les télescopes ont vu cet afterglow et pourtant ce gamma rayburst était très faible. Quand on regarde en fonction donc, du redshift, évidemment, le redshift est tout petit, c'est une galaxie proche, et on voit que ce GRB a été très, très, très faible ici. Alors ici, vous avez en vert la limite de détection. Évidemment, à grand redshift, on détecte que les plus puissants, et celui-ci est un très, très peu puissant. Alors, il se peut qu'on en ait plein dans ce région-là, mais qu'on ne pourra pas détecter, car on n'a pas la sensibilité. Donc simplement, il faut quand même dire que le taux de fusion des étoiles à neutrons était très très vague, vaguement estimé entre 0,04 et 100, c'est vraiment une domaine de variation très grand. Et une fois qu'on a observé celui-là, on a pu faire des statistiques, on en a observé quelques-unes d'autres depuis 2017, on a aujourd'hui une fréquence entre 1 et 50, donc ça a resserré un peu l'intervalle d'incertitude qu'on avait sur la fréquence de ces fusions d'étoiles à neutrons. Alors je reviens un petit peu sur l'énergie d'un gamma rayburst. On avait beaucoup parlé aussi la semaine dernière de l'observation dans les afterglows d'un plateau et puis d'une chute brutale et d'un autre plateau ici, qui montrait que peut-être il y avait une réénergisation. Une réinjection d'énergie, en fait. Et on se demande à quoi est due cette réinjection d'énergie. Donc, une possibilité serait justement ces chocs. Ces chocs, on avait vu les chocs en avant et en arrière, les chocs reverse, chocs. Ici, c'est une simulation de Kumar et Zhang qui vous montre un tout petit peu ce qui se passe. Vous avez les particules qui arrivent ici à vitesse C, avec un grand facteur de Lorentz. Vous voyez qu'elles sont toutes alignées ici. Et puis, elles arrivent à un choc qui... ici, on représente les lignes de champ magnétique un petit peu désordonnées. Lorsqu'on arrive dans ce choc, il y a une compression adiabatique qui est d'un facteur 4. Vous avez aussi le champ magnétique qui est comprimé. C'est une matière complètement ionisée, donc il suit le flux et piégé dans la matière. Donc, vous avez une compression du champ magnétique énorme. Et lorsqu'on regarde l'énergie que vous changez de référentiel, vous avez une multiplication par gamma, vous avez une énergie gamma 2 MC2, si M la masse de ces particules-là. Alors vous voyez que ces particules ont la même vitesse pratiquement, mais ont été randomisées. Vous avez plus d'énergie de dispersion. Et vous pouvez calculer un petit peu le rayon à laquelle vous allez le voir en fonction de l'énergie et du gamma, etc. Donc ces chocs, c'est toujours le même genre de structure donc on a déjà décrite avec une surface de discontinuité, un choc vers l'avant et un choc vers l'arrière. Et on pense que cette zone-là va être en effet très choquée et chauffée et que peut-être ces chocs-là vont provoquer une réinjection d'énergie qui va peut-être être vue... ça, c'est une des hypothèses. Ce n'est pas la seule. On avait vu aussi que si, par exemple, l'objet central était une magnétar, une magnétar qui tourne très, très vite sur elle-même, le fait de rayonner avec un champ magnétique très fort va ralentir et prendre de l'énergie cinétique de cette magnétar. et ça pouvait être l'origine de la réinjection d'énergie. C'était une simulation de Dalloso qui montrait en effet que c'était possible, qu'on pouvait reproduire les observations de 50% des sources qui ont ce plateau. Alors, cette évolution de l'afterglow, elle est très intéressante aussi pour savoir vraiment ce qui se passe. Tous ces événements, ces étapes, on pense qu'on pourrait peut-être savoir s'il reste un trou noir ou une magnétar. Lorsque vous avez une magnétar, le moment angulaire par unité de masse est plus faible. Pourquoi ? Parce qu'avec un trou noir, vous pouvez rapprocher beaucoup plus de l'horizon. Enfin, l'horizon existe, il n'y a pas d'horizon pour une magnétar. Vous rapprochez, vous pouvez avoir une vitesse presque égale à la lumière près de l'horizon, alors que ce n'est pas le cas pour une magnétar. Donc on peut penser que l'on aura un moment angulaire plus grand dans le cas d'un trou noir. Ici, on a la réénergisation, comme on a vu ça, et puis très souvent, on a une chute brutale à la fin. Et on pense que c'est le moment où on a assez ralenti le spin-down de la magnétar et qu'elle va s'effondrer en trou noir. Donc cette chute-là pourrait être due à cette transformation. Donc ce qui a été fait et essayé, c'est de regarder à quelle vitesse et quel est le moment angulaire de toute la matière dans toutes ces couches-là, et regarder un petit peu le facteur de oméga, la vitesse de rotation, par rapport à la vitesse keplérienne, et regarder si on est assez proche ou non de la vitesse de Kepler, et de regarder un petit peu... Alors pour l'instant, ce n'est pas encore très concluant, mais c'est un petit peu l'idée. Alors pour ça, pour les mécanismes d'émission maintenant, au départ, on pense qu'il y a comme une boule de feu de ce gamma ray burst qui peut-être est thermique au départ, mais dès qu'il y a choc et afterglow, c'est l'émission synchrotron qui domine dans les chocs, donc champ magnétique et particules chargées qui émettent dans ce champ magnétique, et on se demande si le refroidissement il peut être rapide, lent ou modéré. Vous voyez que les modèles essaient de regarder à quelle fréquence on a le pic d'énergie et la fréquence à laquelle on a le refroidissement. Cette fréquence varie en fait, elle n'est pas égale au pic d'énergie, mais selon la façon dont le facteur de Lorentz de refroidissement, une fois que ça a été injecté, est plus ou moins correspond à une fréquence plus ou moins grande. Ici, vous avez les observations, le temps T1, T2, T3, vous voyez que l'énergie tombe et que les pentes ici de toutes les étapes changent aussi. Donc ce qui a été regardé, c'est sur au moins 19 GRB où on a cette information. Il y a une grande partie qui se refroidit très rapidement, une grande partie non. Ça nous donne une petite idée de champ magnétique et l'énergie de ces jets. Je passerai un petit peu dans ce champ magnétique ici. Et finalement, on pensait qu'il y avait une pente maximum, moins deux tiers ici, où le rayonnement synchrotron n'était plus possible. On appelait ça deadline ou ligne de la mort en français. Et finalement, on s'aperçoit que c'est possible. En fait, on peut traverser cela. On a plusieurs spectres qui se trouvent ici. Donc, ça pouvait être un mystère, mais en fait, on apprend un peu ce qui se passe ici. Donc, ce n'est pas forcément la boule de feu, mais on peut avoir encore de l'émission synchrotron dans ces chocs. Alors, je passe maintenant aux simulations numériques. Qu'est-ce qu'on va apprendre par les simulations numériques de cette énergie de l'afterglow? Alors, c'est certainement nécessaire d'avoir l'accrétion pour que la matière arrive sur l'objet. Alors, ici, ce sont des simulations de Gianuc en 2021. Et lorsque le champ magnétique, comme on l'avait déjà décrit, est piégé dans la matière et arrive vers le centre, il se peut qu'on ait saturation de champ magnétique. On appelle ça Magnetically Arrested Disk, pour faire MAD, en fait, c'est juste pour avoir un nom, un acronyme qui est facile à retenir. Donc la région est donc arrêtée, si vous voulez, et on a ce phénomène, même le phénomène de Blandford, pour les trous noirs, Blandford-Snaget, qui... lorsque l'énergie magnétique domine l'énergie des particules, va pouvoir créer ce jet et qui va prendre l'énergie en fait, de rotation et l'énergie d'accrétion. Alors, dans ce mécanisme-là, il faut que le spin du trou noir soit assez grand. A, c'est le spin sans dimension, qui est compris entre 0 et 1, 1 étant le maximum que peut tourner le spin du trou noir. Et lorsque, donc vous voyez un peu les deux acronymes qui, pour faire évidemment, on a trouvé quelque chose qui n'est pas du tout arrêté, c'est sane, donc celui qui n'est pas mad. Alors, il y a une grande importance de l'instabilité magnéto-rotationnelle, dont on a déjà parlé, comme je vous le rappelle ici. Pourquoi ? Parce qu'ici, on est dans une matière où le champ magnétique est vraiment piégé par la matière est ionisée, et donc les particules sont tirées aussi avec le champ. Donc le champ magnétique, on peut imaginer que les particules sont comme tenues par des ressorts à cause de ce champ, des lignes de champ qui ont une certaine résistance. Donc vous avez par exemple une particule interne qu'on va appeler MI, une particule externe ME. Donc ME, va, normalement, il y a une rotation du disque qui est différentielle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de tours effectués au centre qu'au bord. Ça, c'est toujours le cas de tous les disques qui ne sont pas en rotation solide, hein, en général c'est le cas. Donc vous avez un oméga qui est beaucoup plus grand, l'oméga keplérien, beaucoup plus grand au centre qu'au bord. Donc vous voyez que cette particule-là, elle est lente par rapport à celle-ci, donc elle va être accélérée par MI et MI va être décélérée. Donc en quelque sorte, c'est MI qui va donner son moment angulaire à ME, alors que finalement c'est ME qui en a le plus, parce que le moment angulaire croît avec le rayon. Donc c'est une instabilité parce que c'est la particule qui a le moins de moment angulaire qui en donne à celle qui en a le plus. Donc c'est une situation instable, vous ne pouvez pas arriver à l'équilibre. Donc c'est ce qu'on appelle cette instabilité de magnéto-rotationnelle. Et cette instabilité va permettre à les échanges de moment angulaire et avoir la matière qui arrive au centre encore plus vite et qui va concentrer le champ magnétique encore plus vite vers le centre. Vous avez cette instabilité qui est simulée ici. Avec un disque assez fin, vous avez une coupe dans le disque, on voit qu'il y a des tas d'instabilités dans ce disque-là. Donc une simulation a été faite pour les GRB, ici par McKinney et al., avec au départ, donc T égale 0 dans la simulation, vous avez des lignes de champ qui sont assez ordinaires, et en couleur vous avez le champ B, donc il n'y a pratiquement pas de champ B au centre ici, et puis peu à peu, après un certain temps gravitationnel, vous avez un disque qui va être complètement arrêté, saturé de champs magnétiques, donc MAD ici, avec un champ magnétique qui va être vert, dans les couleurs vertes, donc quelque chose qui est très fort et qui va créer ce G que vous attendez. Donc un disque qui va être très aminci et évidemment ce G est 100% efficace si le spin du trou noir est au moins égal à 0,9. Ce qu'on voit ici dans la matière, vous avez les lignes de champ qui sont en gras lorsque c'est l'énergie magnétique qui domine. Ici, il y a assez peu de particules, ici un peu moins. Et ici, de profil et ici, de face, vous voyez qu'il y a rotation avec des champs magnétiques et une instabilité aussi de Rayleigh Taylor. Vous avez aussi des oscillations quasi-périodiques dans cette simulation. Ici, ce que vous voyez en couleur, c'est la densité ρ. Tout à l'heure, c'était le champ magnétique. Alors ici, on a comparé un résultat récent de Begelman et al., 2021, qui compare un petit peu les deux situations. Est-ce qu'on a ce disque qui n'est pas saturé de champ magnétique, qu'on appelle standard, et puis celui qui est MAD. Ici, vous voyez, en fonction du rayon, les champs magnétiques en question, ils sont beaucoup plus faibles dans cette situation-là, c'est que dans l'autre. Hein, vous voyez que le champ magnétique est vraiment saturé. Ici, c'est au milieu du plan, ici, dans le sphérique. Et on voit qu'il y a, en effet, dans le plan, ici, on a des rayons qui sont 20 ou 40 fois le rayon de Schwarzschild autour du trou noir. On voit qu'il y a beaucoup d'instabilité qui persiste, en fait, cette instabilité magnéto-rotationnelle qui continue de saturer même le champ magnétique. Alors la production des G, alors dans le GRB court qui était la fusion des étoiles neutrons en 2017, hein, c'est toujours le même, hein, 17 août 2017, on a essayé de voir si on reproduisait exactement le temps. En fait, le GRB est sorti 1,7 secondes après la l'arrivée des ondes gravitationnelles. Donc les ondes gravitationnelles donnent le top départ de la fusion, si vous voulez, et à ce moment-là, à bout de combien de temps arrive le G gamma? Eh bien, on a observé 1.7 avec une petite barre d'erreur, bien sûr, mais les simulations arrivent à reproduire ce genre d'efficacité. Alors évidemment, ils font varier les paramètres. Ici, on a un G qui ne sort pas du tout. Ici, on a quelque chose qui marche à peu près. Et puis, dans ce cas-là, vous voyez qu'on adapte un petit peu le temps des G, le temps d'arrivée, etc. Une compétition entre le collapse du trou noir et puis l'interaction avec le vent, le G, etc. Et là, l'instabilité de magnéto-rotationnelle. Alors, la géométrie du G, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais d'après une revue de Nakar ici, on peut la distinguer et la développer un peu plus. On a dit qu'il y avait un G qui partait donc de l'objet compact ici, et puis elle va rencontrer le milieu ambiant. Alors, ce milieu ambiant, il y a d'abord un choc vers l'avant et puis un choc vers l'arrière. On voit qu'il va y avoir comme un cocon, une bulle ionisé de forte pression, le G va revenir en arrière par ce choc en arrière. Il va y avoir des éjectats qui vont se retrouver dans un cocon interne, en quelque sorte, une partie chaude et peu dense. Et puis, par contre, il va y avoir un cocon qui est fait du milieu interstellaire ambiant qui revient ici et qui est plus dense et plus froid. Donc, finalement, ce cocon permet aussi une collimation du G qui continue à se développer. Ici, vous avez en couleur, d'un côté, l'énergie par particule, l'autre, la densité. Et vous voyez qu'il y a encore ça vient d'une simulation, un grand nombre d'instabilités de Rayleigh-Taylor, etc., au bord du G, au centre et au bord. Alors, tout ceci, c'était pour le G court. Est-ce qu'on a un G long? Eh bien, on a quelques paramètres qui vont marcher aussi. Dans une supernovae. En fait, le G est un petit peu universel une fois que l'on a obtenu le trou noir et le disaccrétion. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Ici, on a la simulation d'Heisenberg et Tal, d'un G long. On voit ici la densité et puis l'énergie, en quelque sorte. On voit le G qui se déplace. Il faut qu'il soit relativement fort pour sortir des éjectats de la supernovae. Donc ça, c'est un obstacle supplémentaire. Mais on voit qu'au bout de 18 secondes et 100 secondes, l'énergie, la densité correspondent à ce qui a été observé. Et le paramètre qui est très intéressant obtenu dans cette simulation est que l'énergie qui sort dans le G est très faible par rapport à l'énergie qui sort dans la supernovae de façon sphérique et à une vitesse bien non relativiste, donc bien sous-relativiste. Le G qui est finalement le plus remarquable, le plus spectaculaire, qui a une énergie très forte, il ne fait que 0,1% de toute l'énergie. Donc ça veut dire que la supernovae a encore plus d'énergie qui sort de façon, enfin en tout cas dans ce modèle, de façon sphérique. Donc finalement, je vais terminer avec un petit summary de ce qu'on a appris, hein, qu'il y a deux possibilités pour la fusion d'objets compacts. Ça a été un petit dessin de Bartos et al. Soit deux étoiles à neutrons, soit une étoile à neutrons et un trou noir. Donc on a aussi observer les ondes gravitationnelles de ces deux configurations. Alors ici, on ne sait toujours pas si on va aller directement vers une étoile à neutrons, qui sera plus stable, une magnétar, avec un grand champ magnétique, ou alors si les deux vont, après un certain ralentissement de l'énergie cinétique, devenir trou noir. Ça, c'est les possibilités. Et puis, évidemment, si un est déjà trou noir au départ, on a fatalement un trou noir à l'arrivée, après avoir fusionné en quelques secondes, millisecondes. Donc, en résumé, on a bien ces deux aspects des événements cataclysmiques qui ne se répètent pas, mais que ce soit par fusion ou par explosion de supernovae, à la fin, l'état final est remarquablement le même. On a un trou noir et puis un disaccrétion et un G qui est soit long, soit court. Il y a une question d'énergie, il y a une question de champ magnétique, etc. Mais donc, ce qu'on a bien dit ici, c'est que ici on a une fin de vie d'une étoile très très massive qui devient soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. Et ici, on a la fusion qui devient aussi cette même chose. Oups. Donc, je résume. Donc, on a appris maintenant que les GRB sont de deux types. Donc, c'est sur saut court et sur saut long, fusion d'objets compacts ou bien effondrement d'une supernova. Et que l'afterglow, finalement, on s'attend à ce qu'il soit presque universel, puisqu'il s'agit d'un jet, d'une boule de feu, d'un jet gamma, qui essaie de rencontrer par des chocs, internes d'abord et puis externes, le milieu ambiant, et il a une réinjection d'énergie et une cassure du jet qui nous montre qu'il est à peu près de 10 degrés d'ouverture. Donc on a ce mécanisme que sans doute vous allez bientôt dans le séminaire avoir un peu plus de détails, des chocs qui émettent en synchrotron, et finalement les simulations numériques nous apprennent beaucoup de choses et permettent de revenir à la nature de l'objet et peut-être l'équation d'état des étoiles à neutrons. Donc, merci beaucoup.